Man qui est frappé par la guerre, le cœur de l'Institut dévasté. Restez avec nous.
Radio J.
Le 6-9, Ilana Ferradian.
Il est 7h, bonjour et bienvenue sur Radio J. Merci de votre fidélité et merci de votre écoute ce lundi 16 juin 2025. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour faire le point de l'actualité, 619e jour de guerre en Israël.
Radio J, le journal en direct de nos studios de Jérusalem.
À Jérusalem, nous sommes en direct avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, Boker Tov. On va commencer ce journal par une nouvelle nuit de guerre en Israël pour vous, pour tous les Israéliens, avec des tirs de missiles iraniens qui ont frappé le territoire justement.
Et oui, effectivement, Ilana, hier soir vers 21h, une trentaine de missiles ont été tirés par l'Iran en direction du territoire israélien. Le bilan de cette attaque, quelques blessés légers et des dégâts matériels plus importants. La défense passive a alerté les Israéliens vers minuit sur l'éventualité de nouveaux tirs. Mais finalement, l'attaque iranienne est intervenue que ce matin vers 4h du matin. Et il faut l'avouer, elle a été particulièrement douloureuse. Les systèmes de défense israéliens ont intercepté la très grande majorité des missiles iraniens. Mais plusieurs missiles se sont malgré tout abattus sur le territoire israélien, selon un bilan officiel mais encore provisoire. 4 Israéliens ont été tués par l'impact direct d'un missile balistique iranien qui s'est abattu sur leur immeuble à Petah Tikva. Dans d'autres sites touchés par cette dernière salve, on remarque plusieurs dizaines de blessés. Cette salve a touché également des bâtiments dans le centre de Tel Aviv. On a recensé au total quelques 90 blessés, dont 2 très grièvement. L'un de ces blessés est un enfant de 10 ans. Plusieurs personnes serait prisonnière des combes, mais un contact a été établi, en particulier dans un des immeubles qui a été détruit ou en tout cas soufflé. Les sauveteurs sont sur place, en particulier à Petah Tikva. La police demande aux badauds de ne pas rester sur place et de laisser les sauveteurs remplir leur mission sur place. Tzal a indiqué avoir attaqué durant la nuit plusieurs sites à Téhéran comme mesure préventive avant même que les missiles tirés vers 4h du matin ne soient envoyés.
Et puis, les recherches se sont poursuivies durant toute la journée d'hier et la nuit sous l'immeuble détruit hier matin à Batiam.
Oui, et malheureusement, le bilan s'est alourdi. Là aussi, au total, 9 personnes ont été assassinées dans cette attaque à Batiam hier matin. Le nom de l'une d'elles a été rendu public hier. Il s'agit d'Efrat Saranga, 44 ans, donc de Batiam. Pour l'instant, les noms des autres victimes n'ont pas été publiés. Mais le ministère ukrainien des Affaires étrangères a indiqué que 5 des 9 victimes étaient de nationalité ukrainienne. Et puis, il y a eu des blessés légers hier matin après qu'un missile se soit abattu entre 2 immeubles à Haïfa. Et enfin, hier soir, dans la région de Lachish, dans le centre du pays, le sud, à proximité du nord du Negev, en tout cas, 2 personnes ont été légèrement blessées.
Et on revient sur le terrain des combats, et en particulier en Iran, avec des informations sur un raid israélien contre la centrale nucléaire de Fordo.
Oui, en effet, selon certaines sources internationales, les avions de chasse israéliens auraient bombardé la centrale de Fordo, qui est considérée comme la centrale majeure du programme nucléaire iranien. Et c'est elle qui est enfouie le plus profondément sous terre. Selon le centre sismographique de l'Iran, situé près de Fordo, un tremblement de terre de 2,5 sur l'échelle de Richter aurait été recensé sur place, et des secousses auraient également été recensées près d'autres centrales nucléaires, comme celle de Natanz. Côté israélien, on exprime une forme de scepticisme face à ces informations, mais on ne les a pas démenties. Par contre, le chef d'état-major de Tzal, le général Eyal Zamir, a déclaré que les forces de Tzal allaient continuer à accentuer leur action sur le territoire iranien. Il a parlé de centaines de cibles frappées par les avions de chasse de l'armée de l'air israélienne. Le premier ministre Netanyahou a par ailleurs confirmé que le commandant des services de renseignement des gardiens de la Révolution et son adjoint avaient été éliminés à Téhéran. Nous œuvrons dans les cieux de Téhéran, a dit le premier ministre sur Fox News hier. Quant au président Trump, il a dit qu'il continuera à protéger Israël afin que l'État hébreu puisse se défendre. J'espère que la guerre se terminera vite, a dit Trump.
Le porte-parole de Tzal a indiqué que les mesures de protection de la défense passive resteront en vigueur au moins jusqu'à demain minuit.
Oui, en effet, la signification de cette mesure est qu'au moins jusqu'à mardi soir, donc demain soir à minuit, il n'y aura pas d'école ni de lycée. Les rassemblements publics resteront interdits. Seuls pourront travailler ceux qui sont considérés comme absolument indispensables pour le pays.
Et puis enfin, pendant ce temps, on n'oublie pas les otages, en particulier après la récupération du corps d'un otage.
Oui, il s'agit du sergent-chef Avi Hatzili, 49 ans, pardon, Avi Hatzili, 49 ans. Au moment de sa mort, il a été tué le 7 octobre 2023. Le corps a été détenu par le Hamas pendant donc près de 2 ans. La dépouille mortelle d'Avi Hatzili a été récupérée dans Gaza par les forces israéliennes avec le corps de Yair Yaakov. Avi Hatzili était le commandant de l'unité d'intervention d'urgence du kibbutz Nir Oz. Au début, il était considéré comme otage vivant, mais en décembre 2023, Saal a établi qu'il avait été tué et que son corps avait été kidnappé par le Hamas. Le président de l'État, Yitzhak Herzog, a exprimé sa tristesse dans un communiqué de deuil. « Mon cœur va vers l'épouse du sergent-chef Hatzili, Liat, et vers sa famille », a dit le président. « Nous continuerons à tout faire pour permettre le retour de tous les otages, vivants ou non. »
Merci beaucoup Daniel, on vous retrouve tout à l'heure à 7h30 sur Radio J. Un point sur la météo de ce lundi matin. Malgré la présence de nombreux nuages sur les régions voisines de la Manche, le soleil s'impose ailleurs avec un peu de vent près de la Méditerranée. Mais dans l'après-midi, le beau temps s'installe. Il fera beau partout. 26 degrés à Paris, 33 à Montpellier, 30 à Nice. Et puis en Israël également, le beau temps se maintient. 28 degrés à Tel Aviv, 27 à Haïfa, 38 à Eilat.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Radio J.
La chronique high-tech avec Daniel Rouache, comme tous les lundis matins. Il est avec nous, président d'honneur de la Chambre de commerce Israël-France. Bonjour Daniel.
Oui, bonjour Ilana.
Merci beaucoup Daniel d'être avec nous. Malgré effectivement cette situation et ce contexte difficile, on espère que vous vous portez bien en tout cas. Ce matin, vous souhaitiez nous parler de l'Institut Weizmann, frappé par la guerre justement. Les Iraniens qui envoient un signe très fort contre le monde de la science israélienne. Le cœur de l'Institut est dévasté. Alors qu'est-ce que vous souhaitiez nous dire ce matin, Daniel?
Écoutez, plusieurs bâtiments de l'Institut Weizmann ont été touchés par les tirs de missiles iraniens. L'Institut Weizmann des sciences a annoncé que plusieurs impacts ont été enregistrés sur des bâtiments du campus de l'Institut. Il n'y a aucune victime. En fait, tout est... on est obligé de ne pas dire la vraie vérité. L'Institut a pris quand même, a envoyé quand même un message public en disant que la sécurité des employés est assurée. Et Téhéran a employé pour la première fois un missile guidé lors du bombardement sur Israël. Dans la réalité des faits à l'Institut Weizmann, des villas de chercheurs ont été dévastées. Il faut savoir que c'est l'un des instituts les plus beaux au monde, classé parmi les plus beaux et magnifiques instituts avec une verdure de tous les côtés. Les chercheurs également confirmés vivent sur le campus, à l'intérieur du campus, dans les villas, et c'est quand même, ils ont été profondément choqués par ce qui s'est passé. Il faut savoir quand même qu'au moment de l'attaque, très peu de visiteurs étaient dans l'institut. Selon le New York Times, un incendie s'est déclaré dans au moins un bâtiment abritant des laboratoires. Je connais très bien les laboratoires qui ont été dévastés. On peut pas en parler publiquement. Il n'y a aucune information publique qui a été diffusée pour éviter que les Iraniens se réorganisent et attaquent de nouveau l'Institut. Ce qu'on sait de toute manière, c'est que 3 des membres de la faculté des sciences informatiques, Shafrira Goldwasser, Amir Gnueli et Adi Shamir, ce fameux Shamir, c'est l'inventeur du célèbre algorithme RSA, ce sont eux qui ont obtenu le prix Turing, qui est considéré comme l'équivalent du prix Nobel pour les sciences informatiques. Et d'après la rumeur, en fait, ce sont des chercheurs, pas Shafrira Goldwasser, elle vit actuellement à Boston, qui sont en tous les cas visés par les Iraniens pour abattre des scientifiques de premier niveau. On sait que des chercheurs de l'Institut Weizmann sont des leaders mondiaux du cyber, qui vivent à l'intérieur de l'Institut. Maintenant, ils sont protégés, ils ne sont plus à l'Institut. Une personnalité connue dans le monde entier est une des personnalités que les Iraniens souhaitent. C'est lui qui est le numéro un dans le domaine du cyber mondial. Il y a toutes les conférences, on le voit partout, aux États-Unis, au Japon, en Chine et ailleurs. Et on sait qu'il est visé. Alors, en ce qui concerne l'Institut Weizmann, on n'est pas du tout étonné que les Iraniens s'attaquent à cet institut. J'ai cherché ce que disaient les Iraniens sur l'attaque. Le Tehran Times vient d'écrire un article il y a même pas 2 jours. Le régime sioniste a créé l'institut de recherche à Rehovot en Palestine en 34. Weizmann, dirigeant du mouvement sioniste et premier président d'Israël, fut le fondateur et le premier directeur de cette institution. Et ce qu'ils disent, l'Institut est connu pour développer des outils défensifs et agressifs en coopération avec d'autres organisations pour le régime d'occupation. Certains de ces diplômés jouent un rôle majeur dans la fabrication d'armes militaires. Alors, c'est l'Institut Weizmann qui est touché actuellement, mais l'Institut, le Tertion de Haïfa, il y a quelques années, avait été touché par le Hezbollah. On sait que ce sont des instituts qui sont magnifiques. Et puisqu'on est sur Radio J ce matin, je voulais quand même dire que l'Institut Weizmann, c'est un institut de recherche qui ressemble comme deux gouttes d'eau à l'Institut Pasteur. C'est en effet sur le modèle de l'Institut Pasteur où il avait séjourné peu avant la Première Guerre mondiale que Chaim Weizmann créa l'Institut qui, en 1950, devait porter son nom. Il faut savoir que Simone Veil a joué un rôle fondamental dans la signature des accords scientifiques entre la France et Israël. C'est vraiment l'un des plus beaux instituts au monde et l'Institut Pasteur est très très heureux de collaborer, développer des recherches dans des domaines tout à fait profonds, scientifiques, organisation de conférences, séminaires, tables rondes. Il faut savoir qu'actuellement tout est arrêté.
Oui.
Toutes les conférences scientifiques en Israël sont bloquées et moi-même je reçois des messages tout le temps sur toutes les annulations.
Eh bien,
On est en pause et par rapport à la collaboration France-Israël et j'espère que les choses vont revenir.
On l'espère aussi. On l'espère aussi. Merci beaucoup Daniel, à la semaine prochaine.
Le 6-9, Ilana Ferradian.
Et tout de suite, judaïsme au féminin avec Maria Chadré. Maria Chad, vous posez cette question. Quelle attitude nous accorde le mérite de vivre sur la terre d'Israël? Bonjour, Boker Tov.
Boker Tov, Shavua Tov. Ce matin, nous allons tenter de répondre ou d'apporter un début de réflexion à une question complexe. Quelle est la condition sine qua non pour mériter de vivre en Israël? Alors pourquoi je pose cette question? Parce que dans la section de la Torah de cette semaine que nous allons lire, la section de Shlach, eh bien le peuple juif faute, nous sommes proches de Tisha B'Av, du 9 Av, et le peuple juif faute parce que les explorateurs racontent qu'en terre d'Israël, ce serait extrêmement difficile de vivre et donc le peuple juif perd son lien immédiat à Eretz Israël et ce n'est que 40 ans plus tard que le peuple juif va pouvoir rentrer finalement en Israël. Alors cette question, elle est toujours aussi actuelle. Il nous faut mériter Israël aujourd'hui dans le post 7 octobre, je dirais, où la légitimité du peuple juif, la souveraineté du peuple juif sur cette terre est tellement remise en question. C'est une question qui est importante pour les juifs de diaspora comme pour les juifs d'Israël. Comment mérite-t-on la terre d'Israël? La terre d'Israël, c'est le lieu dans la Torah du trait d'union entre le ciel et la terre. C'est Sha'ar HaShamayim, c'est là où se trouve la porte du ciel. C'est le lieu du lien entre un monde matériel et un monde spirituel. Or, il existe un problème très ancien, aussi ancien que le monde, cette question de comment concilier les deux extrêmes, à savoir le corps et l'âme, ou je pourrais dire le fini et l'infini. Comment l'infini peut venir pénétrer dans le fini? Or, précisément, c'est cette question que se sont posées les fameux explorateurs quand ils sont allés visiter Israël. Alors que le peuple juif était, peuple hébreu était encore dans le désert, ils reviennent en disant qu'ils vont être avalés par la matérialité. Ils sortent d'une période dans laquelle ils étaient pris en charge, pour ainsi dire, entre guillemets, par Dieu, à travers, ils mangeaient de la manne, il y avait les fameuses nuées de gloire et un niveau de spiritualité maximal, comme jamais personne n'a vécu, puisque c'est la génération qui a entendu les 10 commandements et reçu la Torah. Et voilà qu'ils doivent devenir autonomes, rentrer dans ce pays, certes, où coule le lait et le miel, mais comment faire pour rester connecté à de la spiritualité sans se faire avaler par la terre et par les besoins du quotidien, par la nécessité du quotidien? C'est une question que les autres monothéismes se sont bien évidemment aussi posées et tous ont eu des difficultés à répondre à cette question. Eh bien, le Israël d'aujourd'hui, si nous l'observons, c'est un Israël qui est à la fois une start-up nation et à la fois un lieu central de spiritualité. Et la question, c'est comment faire ce trait d'union sans choisir de façon absolue l'un ou l'autre camp, c'est-à-dire sans être soit tout à fait une personne du monde du travail ou une personne du monde de la spiritualité, de la yeshiva, du lieu d'études. Comment finalement faire ce trait d'union? Comment être dans la juste mesure entre le haut et le bas? Je le dirais autrement, comment avoir les pieds sur terre tout en regardant en permanence le ciel. Là, vous savez, moi je suis toujours émue quand je vois les soldats recevoir leur arme qu'ils ont malheureusement besoin d'avoir. Quand ils la reçoivent, au début du service militaire, ils reçoivent en même temps le livre du Tanakh, le livre de la Bible de l'armée. L'armée offre ce livre de la Bible, comme pour ne pas oublier la raison pour laquelle nous avons besoin d'une arme et la raison pour laquelle nous sommes en terre d'Israël. Nous sommes en terre d'Israël pour dévoiler la parole d'Hachem, pour rester connecté à la spiritualité en permanence, pour ne pas être avalé par la terre. Alors jusqu'aujourd'hui, la question est totale et la réponse, eh bien, se trouve quelque part dans une mesure juste, précise, à chercher en permanence. Il faut douter et il faut continuer de la chercher, avoir les pieds sur terre et regarder toujours le ciel.
Merci beaucoup, Toda Rabba. On vous retrouve, Mariacha, toutes les semaines sur Radio J.
Radio J.
Radio J. Le 6-9. Ilana Ferradian. Radio J.
7h15, toute l'actu avec Eva Soto. Bonjour Eva.
Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité, de nouvelles attaques de l'Iran contre Israël. Cette nuit, deux femmes et un homme de 70 ans ont été tués, ainsi qu'un homme de 80 ans, notamment dans des frappes ce matin à Petah Tikva. Le bilan, toujours provisoire, s'élève à 87 blessés. Le guide suprême de l'Iran, Ali Khamenei, quant à lui, aurait cherché refuge dans un bunker de Téhéran, alors qu'Israël lançait ses frappes car Tsahal a visé en Iran une installation nucléaire à Parchin et ce matin des centres de commandement de la force Al-Quds à Téhéran, force qui envoie des terroristes à l'étranger et finance des groupes comme le Hezbollah au Liban. Le commandement du front intérieur maintient ses restrictions au moins jusqu'à demain soir. Les écoles restent donc fermées aujourd'hui en Israël, ainsi que toutes les entreprises à l'exception de celles jugées essentielles. Quiconque vous fera du mal paiera un lourd tribut, déclaration du chef d'état-major de Tsahal hier à l'adresse des Israéliens. Selon Eyal Zamir, l'armée israélienne a ouvert un corridor aérien vers Téhéran. Citoyens d'Israël, a-t-il dit, des épreuves difficiles nous attendent. Deux Israéliens soupçonnés d'espionnage pour l'Iran arrêtés. Ils sont interrogés par la police et le Shin Bet. Donald Trump, lui, a appelé Israël et l'Iran à conclure un accord, estimant que c'était possible. Les ministres des Affaires étrangères européens, eux, se retrouveront demain pour une réunion spéciale en visioconférence à propos de l'Iran. Binyamin Netanyahou présente ses sincères condoléances à la famille d'Aviv Hatzvili, identifié comme le second otage dont Tsahal a ramené le corps mercredi de la bande de Gaza. L'armée israélienne a également récupéré le corps de l'otage Yair Yaakov mercredi, lui aussi assassiné à Niroz le 7 octobre.
Merci beaucoup Eva, on vous retrouve tout à l'heure à partir de 8h sur Radio J, 7h30, la revue de la presse israélienne.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Merci d'être avec nous. Ne bougez pas dans quelques instants. La chronique de Caroline Yadan, députée de la 8e circonscription des Français de l'étranger. Le combat d'Israël pour le monde libre face à l'Iran. C'est le titre de sa chronique. Dans quelques instants, elle va nous rejoindre en studio juste après Pascal Sunshine à Jérusalem pour un dernier point de la situation.
Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati.
Bonjour, c'est Marc Ezrati. Je vous retrouve tout à l'heure avec le Club Imo à 16h05 sur Radio J. Des invités exceptionnels, des analyses éclairées, un tour du monde de l'actualité. C'est cet après-midi, 16h05, et c'est uniquement sur Radio J.
Radio J.
Depuis plus de 120 ans, le KKL reconstruit le pays d'Israël. Parcs, forêts, réservoirs d'eau, infrastructures, programmes éducatifs. En léguant tout ou partie de votre patrimoine, vous participerez au projet sioniste et laisserez votre empreinte en terre d'Israël. Contactez en toute discrétion le KKL et demandez Linda. KKL 01 42 86 88 88 et sur le site kkl.fr.
La 20e édition du Festival des Cultures Juives. Concerts, rencontres, théâtre, expo. Du 15 au 30 juin, découvrez un programme inédit au cœur de Paris. Pour sa soirée d'ouverture, le contrebassiste Avishai Cohen vous donne rendez-vous dimanche 15 juin à 19h dans le cadre intime du Théâtre du Rond-Point pour vivre une expérience musicale inoubliable. Détails et réservations sur festivaldesculturesjuives.org.
Les cultures juives, ça se défend. Et les CUJ aussi. Soutenir les CUJ, c'est transmettre la richesse des cultures juives, lutter contre l'ignorance et renforcer une vie juive libre, ouverte et accueillante. Les 15 et 16 juin, on compte sur vous pour la première grande campagne d'appel aux dons de les CUJ.
Et votre impact est doublé.
Oui, oui, chaque don compte double.
Double.
Alors rendez-vous les 15 et 16 juin sur allodon.fr/ECUJ. Facile, allodon.fr/ECUJ.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Merci de nous rejoindre ce matin sur Radio J. Elle est avec nous en direct en studio. Caroline Yadan, députée de la 8e circonscription des Français de l'étranger. Bonjour Caroline.
Bonjour Ilana.
Merci beaucoup d'être avec nous pour ce matin, un moment important, un moment grave. Dans la nuit du 12 au 13 juin, la semaine dernière, Israël a frappé plusieurs sites stratégiques en Iran en réponse à ce que Jérusalem a qualifié de menace existentielle imminente. Alors pourquoi selon vous maintenant, Caroline ?
Eh bien parce que les services de renseignement israéliens, mais aussi Raphaël Grossi, directeur général de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, ont tiré la sonnette d'alarme. Lors de sa visite à Téhéran en avril dernier, Grossi avait constaté des violations continues de l'accord nucléaire de 2015. L'Iran accumulait près de 40 fois la quantité autorisée d'uranium enrichi. Il était à deux doigts de franchir le seuil critique. Avant même l'attaque, il avait de quoi produire plusieurs bombes nucléaires.
Alors on peut se poser quand même la question, est-ce qu'un accord diplomatique avec les États-Unis n'aurait n'a-t-il pas été préférable à une guerre qui fait déjà trop de victimes ?
Hélas non, Ilana. D'abord parce que le démantèlement complet du programme nucléaire iranien est impossible à atteindre par la négociation puisque la République islamique d'Iran a toujours considéré le démantèlement de son infrastructure nucléaire comme une ligne rouge. Or, selon l'expert nucléaire David Albright, directeur de l'Institut ISIS, même si l'Iran ne conservait que 5% de son stock actuel, il lui faudrait à peine 25 jours pour fabriquer une bombe. Ensuite, parce qu'un accord diplomatique aurait en réalité renforcé le régime, il lui aurait permis de tirer des bénéfices économiques, de se réinsérer sur la scène internationale, d'augmenter ses capacités militaires et de relancer l'axe pro-iranien. Enfin, il aurait mis fin à une vulnérabilité inédite, affaiblie par les frappes israéliennes d'octobre 2024, privée de ses relais régionaux que sont le Hezbollah, le Hamas et les Houthis, et sans l'appui d'un régime syrien désormais effondré, l'Iran n'a jamais été aussi exposé.
Donc Israël n'avait pas le choix que d'attaquer maintenant.
On a toujours le choix, Ilana, mais lorsqu'on fait face à un régime islamiste, autoritaire, théocratique, expansionniste, dirigé par des fous d'Allah qui rêvent de votre destruction depuis leur avènement, l'hésitation est un luxe dangereux. Les massacres du 7 octobre ont démontré, si besoin en était, que cette haine n'avait rien d'abstrait. Que cette opération israélienne relève donc bien d'un acte de légitime défense anticipée, tel que reconnu par le droit international. Le danger était clair, immédiat, irréversible. Israël ne mène pas une guerre totale. Il cible précisément les infrastructures militaires pour protéger sa population. En face, l'Iran vise délibérément les civils en violation flagrante du droit international. C'est ce que nous rappelle le président d'Israël, Itzhak Herzog, lorsqu'il déclare « Nous n'avons pas voulu cette guerre, mais rien ne nous en dissuadera. Je dis à la communauté internationale, vous voulez parvenir à l'apaisement ? Éliminez les capacités nucléaires de l'Iran. »
Alors la communauté internationale doit se tenir, selon vous, du côté d'Israël ?
Cela ne fait aucun doute, Ilana. Depuis des décennies, la communauté internationale a échoué à freiner l'ascension nucléaire de l'Iran et à endiguer sa menace. Nous sommes à l'heure de vérité. Si Israël tombe, ce n'est pas une nation qui vacille, c'est le monde libre qui chancelle. Car cette guerre n'est ni locale, ni bilatérale. Ce qu'Israël affronte aujourd'hui, c'est un fascisme islamiste global, une idéologie de mort qui frappe à Téhéran, à Gaza, à Kaboul, à Toulouse, au Bataclan. Ce n'est pas Israël qui menace l'équilibre mondial, c'est la République islamique d'Iran qui le mine de l'intérieur. Israël est aujourd'hui une digue, un rempart, une sentinelle avancée de nos valeurs. Et nos démocraties, trop souvent molles et hésitantes, doivent se réveiller. Car ceux qui rêvent notre chute, eux, ne dorment jamais. C'est une guerre entre ceux qui défendent la vie et ceux qui glorifient la mort, entre ceux qui combattent le terrorisme mondial et ceux qui l'arment, entre la liberté et le totalitarisme. Ce régime iranien détient depuis 1000 jours deux otages français, Cécile Kohler et Jacques Paris. Il fournit des missiles à la Russie, menace nos capitales, opprime les femmes, pend les homosexuels, torture les opposants. La communauté des nations doit se tenir aux côtés d'Israël et du peuple iranien qui aspire, lui aussi, à sa libération du joug des mollahs. La riposte d'Israël n'est pas seulement légitime, elle est une leçon de courage politique face à une menace que trop d'États préfèrent ignorer, une leçon de lucidité face à des régimes qui avancent masqués mais n'attendent que notre faiblesse pour frapper. Oui, les nations libres, Ilana, doivent se défendre, y compris les armes à la main. Et peut-être, qui sait, que cette riposte marquera la fin d'un régime de barbares et l'aurore d'un nouveau jour pour le peuple iranien et pour le monde. Celui de la liberté et de la paix, enfin retrouvée.
Eh bien, merci beaucoup. Merci Caroline Yadan, députée de la 8e circonscription des Français de l'étranger. On va évidemment continuer à parler de cette guerre Iran-Israël dans quelques instants avec Pascal Zonshine à Jérusalem qui va faire un bilan de la situation. Et puis tout à l'heure avec Christophe Barbier à partir de 7h45 pour son édito. Comme chaque lundi matin, il nous dira lui ce qu'il en pense, le regard qu'il porte sur cette actualité. Merci beaucoup Caroline et à très bientôt.
Merci Lana.
Radio J, Zoom Israël, Pascal Zonshine.
Radio J. Et oui, on retourne en Israël, à Jérusalem, avec notre correspondante Pascal Zonshine. Pascal, est-ce qu'on peut faire un dernier point de la situation, justement, peut-être le dernier bilan et de ce qu'il faut retenir aussi de ces dernières heures?
Oui, on est passé maintenant à 5 victimes dans le dernier bombardement iranien de cette nuit. Une quatrième victime a été extraite des décombres à Bnei Brak et une cinquième à Petah Tikva sur le site de ces quatre immeubles résidentiels dont l'un a été touché de plein fouet par un missile balistique. D'ailleurs, les quatre immeubles de 20 étages ont été évacués, celui qui a été touché, mais également les trois autres, ce qui fait qu'évidemment, il y a maintenant des centaines de personnes à reloger qui s'ajoutent déjà aux plus de 700 qui, hier, ont dû aussi abandonner leur logement. À noter qu'il y a aussi des dégâts sur le bâtiment de l'ambassade des États-Unis à Tel Aviv, qui sert aujourd'hui de consulat. Le bâtiment qui se trouve sur le front de mer, qui donne aussi une idée de la puissance du souffle du missile iranien. L'information est importante, non pas en ce qui concerne les dégâts proprement dit, mais dans l'influence que cela peut avoir sur une éventuelle décision américaine pour la suite de cette campagne.
Alors, on parle également de ce qui se passe avec les États-Unis, hein. Pascal, il y a plusieurs informations. Donald Trump qui croit désormais un accord possible avec l'Iran et qui refuse qu'Israël élimine le guide suprême iranien.
Oui, alors justement, on entend le président des États-Unis tenir des déclarations un petit peu confuses et contradictoires. Hier soir, il a affirmé que les États-Unis continueraient à aider Israël et que parfois il n'y avait pas d'autre choix que de combattre, mais dans le même souffle, il a ajouté qu'il avait bon espoir de voir se réaliser un accord entre l'Iran et Israël, et puis on va attendre de voir ce qui se passe selon maintenant le mantra du chef de la Maison-Blanche. Il n'est pas revenu sur ces révélations faites, me semble-t-il, par le Wall Street Journal, selon lesquelles il aurait imposé son veto à Israël, qui lui aurait demandé s'il serait d'accord pour qu'on élimine le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei. Une information qui a circulé, que Benjamin Netanyahou lui-même a d'ailleurs démenti hier, enfin plus exactement, il a refusé d'y répondre lors de son interview sur la chaîne américaine Fox News. Cela dit, le premier ministre israélien, lui, a rappelé qu'il y avait deux conditions pour que la campagne israélienne s'arrête, soit que l'Iran accepte les conditions du président Trump, soit qu'Israël se chargerait de lever les menaces existentielles que l'Iran fait peser sur Israël, et les menaces évidemment étant d'une part le programme nucléaire de l'Iran, mais aussi ses missiles balistiques, aussi bien une fois qu'ils pourront être équipés d'une ogive nucléaire, mais aussi les missiles balistiques aujourd'hui, les milliers dont l'Iran dispose encore et avec lesquels il continue à bombarder Israël.
Eh bien, merci beaucoup pour ces informations. Pascal Sunshine, merci, notre correspondante à Jérusalem, qu'on retrouve chaque matin dès 6h. Vous le savez, vous restez avec nous. On va continuer à faire le point de l'actualité en Israël dans quelques secondes, dans la revue de la presse israélienne, avec notre correspondant, autre correspondant des studios Qualita, Daniel Haïk, notamment ce qu'il faut retenir ce matin des grands journaux israéliens, leur regard sur cette actualité. Juste après, c'est l'humour et l'édito de Christophe Barbier à 7h45.
Radio J.
Le 6-9, Ilana Ferradian.
Il est 7h30, bonjour et bienvenue sur Radio J. Et oui, on se réveille ensemble comme tous les matins, ce lundi 16 juin 2025. Merci de votre fidélité. On fait évidemment le point d'actualité de cette guerre Iran-Israël. Déjà 19 morts recensés en Israël.
Radio J, la revue de la presse israélienne, en direct de nos studios de Jérusalem.
À Jérusalem, en effet, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk. Daniel, les manchettes des quotidiens israéliens, le Israel Hayom et le Yediot Aharonot se focalisent bien évidemment ce matin encore sur la guerre Israël-Iran, ou si l'on préfère sur l'opération Lion qui se lève, Rising Lion.
Oui, effectivement, le Yediot Aharonot et le Israel Hayom ont semble-t-il coordonné leurs manchettes ce matin puisqu'ils titrent ensemble « Téhéran brûle » ou « Téhéran en flamme ». Et les deux grands quotidiens issus illustrent cette manchette avec d'impressionnantes photos de raffineries de pétrole qui ont été incendiées par l'armée de l'air israélienne hier. En sous-titre, le Yediot Aharonot affirme que l'étau se resserre autour de l'Iran. Tzahal poursuit sans cesse ses raids aériens en Iran et détruit tous les atouts stratégiques des Iraniens. L'une des cibles privilégiées, eh bien, ce sont les missiles sol-sol iraniens. Le Israel Hayom lui cite en sous-titre le témoignage d'une habitante de Téhéran qui a affirmé au journal israélien qu'elle était reclue chez elle, effrayée par les derniers développements. Autre révélation répercutée par le Yediot Aharonot, toute la direction des renseignements militaires israéliens a été éliminée. C'est Benjamin Netanyahou qui l'a annoncé à Fox News. Les Américains émettent également des réserves sur l'opération actuelle, mais aident Israël sur le plan logistique et sur le plan des renseignements militaires. Le Yediot Aharonot nous confirme que l'état d'urgence en Israël a été prolongé jusqu'au 30 prochain.
Les sites d'information qui tiennent les Israéliens informés minute après minute se penchent par ailleurs sur un dossier important. Est-ce qu'Israël doit éliminer l'ayatollah Ali Khamenei?
Oui, selon le site Ynet, Donald Trump aurait déclaré à Benjamin Netanyahou dante à propos d'une éventuelle élimination de l'ayatollah Khamenei. Le côté israélien en dément avoir eu l'intention d'éliminer le guide suprême iranien et on a même qualifié l'information de fake news des fake news. Selon l'opposition iranienne, Khamenei et sa famille auraient été acheminés vers un bunker souterrain dans la région de Téhéran. Le Maariv confirme et explique qu'en Israël, on aurait décidé de le laisser en vie dans l'espoir qu'il change d'avis à propos du nucléaire iranien.
On revient dans les pages du Yediot Aharonot, le Ynet, qui nous dessine la carte des objectifs militaires d'Israël en Iran.
Oui, selon le site Ynet, en 3 jours, l'armée de l'air israélienne a détruit 720 infrastructures militaires iraniennes et ce n'est qu'une liste provisoire car les raids israéliens se poursuivent en permanence en Iran. Ça a indiqué que ces avions avaient en particulier détruit des dizaines de bases de lancement de missiles sol-sol. Les objectifs sont clairs, neutraliser deux programmes iraniens d'envergure, le programme nucléaire d'une part et le programme des missiles balistiques de l'autre.
Et puis aujourd'hui également, on s'intéresse à ce qu'écrivent les éditorialistes du Yediot Aharonot à propos de ces derniers développements, hein, Daniel.
Oui, le docteur Michael Milstein écrit que la guerre contre l'Iran a débuté par des succès historiques et internationaux, mais il suggère aux Israéliens de ne pas plonger dans l'euphorie ni dans la nonchalance. L'ennemi ne va pas déposer les armes prochainement. Pour qu'il y ait une chance de sortie avec de réels succès de cette confrontation, il nous faut parvenir absolument à un accord politique qui redéfinirait le projet nucléaire iranien. Dans le même ordre d'idées, Enav Shif déplore que l'on ne fasse pas montre de plus de remise en cause. Ce gouvernement qui mène la bataille contre Téhéran est le même que celui qui a échoué dans tous ses objectifs sécuritaires ou sociaux, écrit-elle ce matin. C'est pourquoi il faut être méfiant, pas seulement après 72 heures de combat, mais même après 72 secondes. Avi Sakharov se demande jusqu'à où Donald Trump sera prêt à aller aux côtés d'Israël. Trump a une opportunité historique en menaçant d'utiliser la force. Il peut ramener les Iraniens à la table des négociations. Il espère que le gouvernement à Jérusalem aura tenu compte de l'hypothèse selon laquelle Donald Trump n'ira pas aux côtés de l'État hébreu jusqu'au bout.
Et puis Daniel, toujours dans le Yediot, le professeur Yuval Albachan a choisi de se pencher sur ce qu'il appelle la bravoure des civils israéliens.
Oui, et le professeur Alvajan raconte le récit d'une Israélienne de 90 ans que l'on a vue hier sur les écrans des télévisions israéliennes. Une Israélienne de Bat Yam qui habitait près de l'immeuble qui a été détruit par un missile iranien dans la nuit de samedi à dimanche et qui a refusé d'être évacuée. Si je pars, qui restera là, a-t-elle déclaré devant les caméras des télévisions. Finalement, lorsqu'elle a compris que sa détermination allait conduire ses petits-enfants à rester à ses côtés et à se mettre en danger, elle a accepté d'être évacuée, mais pas avant de laisser la lumière allumée dans toute sa maison pour que les Iraniens ne puissent pas croire qu'ils sortent vainqueurs, a-t-elle dit. Pour le professeur Alberchan, cette vieille dame est le symbole de ce réveil du non-Israël.
Et puis évidemment, les éditorialistes du Israël Hayom, eux aussi, Daniel, sont nombreux à vouloir commenter la situation.
Yoav Limor, le spécialiste sécuritaire du journal, écrit que pour l'instant, c'est encore Israël qui détermine le rythme des combats. Pour lui, le défi d'Israël est triple, préserver les succès sécuritaires des premiers jours, limiter les dégâts et définir les objectifs de fin de guerre. Pour Shai Golden, pas de doute, le sort de l'Iran est entre les mains d'Israël. C'est nous qui pourchassons les Iraniens et eux qui sont pourchassés. Nous devons relever la tête, le Hamas et le Hezbollah ne sont plus là et désormais c'est nous face à ces fils de Satan iraniens. Le général Gershon HaKohen rend ce matin dans son analyse un hommage appuyé au chef d'état-major de Tsahal, le général Eyal Zamir. C'est un professionnel, intègre, totalement indépendant. En 100 jours, il s'est imposé par son charisme et ses capacités à conduire Tsahal dans une atmosphère de stabilité. Karni Eldad, elle parle de ces journées historiques que nous vivons, elle les qualifie de d'heures les plus glorieuses de l'histoire d'Israël. Elle écrit ce matin, même si cela doit être long, nous ne nous fatiguerons pas. Pour Nadav Shragai, l'expression du plus jamais cela est en train d'être concrétisée actuellement sur le terrain par l'État d'Israël. Pour Shragai, il ne fait aucun doute que jamais les ayatollahs n'auraient imaginé ce qui est en train de se produire. Pour lui, ce qui s'est passé dans la nuit de jeudi à vendredi est de l'ordre de grandeur du 5 Iyar, la date de l'indépendance de l'État d'Israël en 1948. C'est dans ces instants que nous avons recommencé à décompter nos années d'indépendance, écrit-il ce matin.
Et puis enfin, les quotidiens israéliens mentionnent bien évidemment les dégâts causés par les missiles iraniens, en particulier à Tamra, en Galilée et à Bat Yam.
Oui, les journaux nous montrent les photos de l'immeuble détruit de Bat Yam et de la maison frappée de plein fouet à Tamra et dressent par la force des choses des bilans provisoires. Le front arrière attaqué, titre ce matin en première page de Yedioth Aharonot en parlant de 6 morts à Bat Yam, de 3 disparus et de 4 morts supplémentaires d'une même famille à Tamra. Les journaux reconnaissent aussi que l'Institut Weizmann à Rehovot a été touché par un missile iranien sans faire de blessés. Les journaux répercutent le message vital qui ressort de ces bombardements meurtriers des Iraniens. Ceux qui entrent dans la chambre blindée sont protégés, les autres mettent leur vie en danger.
Merci beaucoup Daniel Haïk, notre correspondant à Jérusalem. On vous retrouve chaque matin à 7h et 7h30 sur Radio J. Je vous dis à demain. Merci de votre écoute ce matin. Toute l'actualité, vous le savez, sur Radio J, toute l'actualité internationale. Et on va continuer à parler de cette guerre entre Israël et l'Iran. Le point de vue dans l'édito de Christophe Barbier. Effectivement, le regard de Christophe sur ce qui se passe en ce moment. Puis on va revenir aussi sur ce qui s'est passé au congrès du Parti Socialiste. Le député Jérôme Guedje, qui est sorti de ses gonds, qui a insulté Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon est devenu un salopard antisémite. Ne vendons pas notre âme à ces fanatiques. Christophe Barbier qui nous dira donc ce qu'il en pense. Vous restez avec nous. Et puis juste après, à 8h30, j'en profite pour vous le dire, on sera avec l'ambassadeur d'Israël en France, Joshua Zarka, et Raphaël Jérusalemi, également analyste de défense sur I24 News.
Radio J.
Tous les lundis, 21h-22h.
Classico.
Salut, c'est Steve Nadja. Retrouvez-moi ce soir à 21h pour Classico, l'émission foot de Radio J. Daniel Riolo, Julien Cazard, Jimmy Algerino, Pascal Olmeta, Grégory Schneider, ils sont déjà venus à Classico. On vous y attend, soyez prêts. Coup d'envoi ce soir, 21h, sur Radio J.
Radio J.
Message de Horte France. Chers partenaires, experts comptables, entreprises, en versant le solde de votre taxe d'apprentissage aux écoles Horte France, vous soutenez l'innovation, l'éducation et l'avenir de nos étudiants.
Votre contribution fait la différence. Dès le 27 mai, connectez-vous sur la plateforme Soltea et fléchez vers les écoles du réseau Horte France.
Une question? Appelez-nous au 01 44 17 30 80 ou rendez-vous sur horte-france.fr.
ORT-France.fr.
Merci pour votre engagement.
Les cultures juives, ça se défend. Et l'écuge aussi. Soutenir l'écuge, c'est transmettre la richesse des cultures juives, lutter contre l'ignorance et renforcer une vie juive libre, ouverte et accueillante. Les 15 et 16 juin, on compte sur vous pour la première grande campagne d'appel aux dons de l'écuge.
Et votre impact est doublé.
Oui, oui, chaque don compte double.
Double.
Alors rendez-vous les 15 et 16 juin sur allodon.fr/écuge. Facile, allodon.fr/écuge.
Radio J.
Le 6-9, Ilana Ferradian.
Merci de nous rejoindre ce matin sur Radio J. Vous pouvez évidemment nous regarder sur notre chaîne YouTube également. Merci infiniment et bien pour votre présence ces derniers jours et vos visionnages dans quelques instants. Christophe Barbier est pour son édito comme chaque lundi matin. Bonjour Christophe.
Bonjour Ilana, bonjour à tous.
Et oui, on vous retrouve pour parler justement de cette guerre Israël-Iran dans un instant. Mais d'abord, c'est l'humour. On se détend un peu avec Fonzie Cohen. Bonjour Fonzie.
Bonjour. Alors justement, avant la détente, je voulais quand même envoyer évidemment tout mon soutien, tout mon amour à nos frères et sœurs là-bas en Israël. C'est important, voilà, juste pas de blague pour démarrer, juste une petite phrase un peu sérieuse. On embrasse aussi notre frère, notre sœur, notre frère, notre sœur, notre amie, Kathleen Jenner, et tous ceux déçus par l'annulation de la Gay Pride. Mais soyons rassurés, apparemment, il y a un mouvement Queers for Palestine qui est chaud d'en faire une à Rafah. Ce serait une première, et forcément une dernière. On embrasse également deux de mes nouveaux compatriotes, Pascal Moririas et Yanis Mamed.
Bon, on précise quand même, pour ceux qui ne savent pas, il s'agit des deux membres de l'équipage du Madeleine, hein, le navire pro-Gaza, qui sont restés en Israël.
Exactement, et après à peine 24 heures en Israël, et après avoir goûté un bourekas au Chouka Carmel, ils sont actuellement en processus de conversion et ont décidé de rejoindre les rangs de Tzahal. Voilà. Je voudrais également parler de quelque chose qui m'interpellait depuis quelques mois en Israël et que moi j'ai découvert uniquement il y a pas très longtemps en fait. Je parle du fait qu'Israël avait un problème avec des outils. Alors déjà, la première fois que j'ai entendu un journaliste en parler, je me dis que c'est pas parler français parce qu'on fait la liaison, on dit des outils. Et que si c'est vraiment un problème, on peut aller chez le roi Merlin Rapidos. Et après, j'ai compris que j'étais teubé et qu'en fait, il parlait d'un groupe de cons, d'un groupe de gens qui tirent leur nom du clan familial Al-Houthi. Alors pardon de mon ignorance, hein, mais qui sont ces gens? D'où ils sortent? On n'en a jamais entendu parler. Et là, d'un coup, ils débarquent, ils s'installent. On s'invite pas dans la guerre des gens comme ça, c'est pas poli, ok? On dirait ces gens que tu connais pas, qui débarquent chez toi à 19h, qui squashent qu'à 6h du mat, qui grattent tout ce qu'il y a sur le buffet, et que tu retrouves dans ta cage d'escalier endormi. Alors par contre, je sais pourquoi, mais moi, le nom Houthi m'a fait penser à un nom des peuples dans Star Wars, genre les Huttes, les Sith. Du coup, bêtement, j'imaginais des genres de Chewbacca poilus qui communiquent qu'en bruit et en cri bizarre. Alors évidemment, je fais idiot. Et j'ai été renseigné après, hein, et j'ai bien vu, hein, que j'avais raison. Mais Star Wars sans budget. Ceci dit, la performance de certains acteurs de Gazaoud sont largement à la hauteur de certains d'Hollywood. Hein. Sur votre sujet, Eliana, est-ce que vous auriez en ce moment un appart à louer?
Ah, pas du tout. Pourquoi? Vous avez encore des cousins gitans à caser quelque part?
Alors, très marrant. Ceci dit, oui, mais c'est pas le problème. Non, c'est juste que j'ai vu la République et qu'avec toutes les manifs, c'est une galère de se déplacer.
Bah,
à la
République. Oui. Ouais, ouais. Ah oui, je vois, ça doit être très fatigant.
Alors, attention, je n'ai aucun souci avec le fait que ces gens manifestent. Hein. Je n'ai rien contre les étudiants d'art plastique et les étudiants en histoire, d'accord? Mais c'est juste le slogan Free Palestine. En fait, ils ont souillé l'utilisation du mot free. Maintenant, dès que je vois que j'entends quelque part, j'ai envie de gerber. Et on s'en rend pas compte, mais c'est hyper handicapant. Alors déjà, j'ai dû changer d'opérateur téléphonique. À chaque fois que je recevais une facture, je balançais mon téléphone, sachant que c'est eux les moins chers.
Qui?
Ce dont on doit pas dire le nom. Ensuite, dans un café, il y avait écrit free wifi, et ben je me suis barré. Alors que c'est assourd chez nous de refuser quelque chose de gratuit, ok? Dans la rue, carrément, j'ai croisé un gars avec une pancarte free hugs. Ben, je lui ai mis une droite. Après, je lui ai fait un câlin, mais le message était brouillé, tu vois. J'arrive même plus à manger du poulet frit. Non, c'est un vrai problème. Hein. Et en vrai, le problème de République, c'est qu'il y a trop de manifs. Et qu'ils doivent en faire des qui n'ont rien à voir, mais au même moment. Vraie histoire. Tu te balades à la République. Tu peux entendre la République en même temps. D'un côté, mariage pour tous sur fond de musique électro. Et de l'autre, Palestine sur fond de cheveux sales et magasins variés. Et ben, la rencontre des deux mondes, elle est très intéressante. Hein, si tu vois le doute dans les yeux de certains. Il y en a qui arrivent avec une barbe et un kéfier et qui repartent avec un tatouage gigant et du poppers. Alors, bien entendu, hein, que chacun continue à manifester pour ce qu'il veut. Mais juste peut-être changer le slogan. Au lieu de Free Palestine, Let's go to Palestine. Hein, ça va la faire tout drôle de manifester là-bas. Et au moins, ça libérera la République. Et je parle pas que de la place. Sinon, je propose un autre rassemblement moins agaçant et plus convivial.
On a besoin.
Mon spectacle, le 17, demain, à 19h30 au Beau-Saint-Martin, avec Ilana et son sarcasme en première partie possible.
Ah, super, tu fais votre première partie?
Avec plaisir.
Ah bah, avec plaisir, écoutez, merci beaucoup. Vous me faites confiance en tout cas.
Avec aucun problème.
Merci beaucoup. beaucoup.
Merci à vous.
Fonzi Cohen, qu'on retrouve également sur ses réseaux sociaux. Et donc les 17 et 24 juin à 19h30. Renseignez-vous dans quelques instants. Ça va, Christophe?
Ah, ça va très bien. Il m'a mis de bonne humeur. On va créer une grande boîte. On va mettre les outils dedans. Ça sera la boîte à outils.
Très drôle. Écoutez, Christophe, vous n'êtes pas là pour les blagues.
Hélas, non.
Mais pour votre édito, justement, dans quelques instants. Vous restez avec nous.
Les grands débats commencent sur Radio G. Sur Radio G.
Barbier, bonjour.
Bonjour Ilana, bonjour
et
à tous.
Rebonjour à vous. Alors, c'est vrai, on parle maintenant depuis vendredi de cette guerre, les frappes d'Israël contre l'Iran, la riposte de l'Iran. C'était donc dans la nuit de jeudi à vendredi, Israël qui a frappé plusieurs sites stratégiques, justement iraniens, en réponse à ce que Jérusalem a qualifié de menace existentielle et imminente. Alors, est-ce que cette attaque, selon vous, était nécessaire maintenant?
Alors, elle était nécessaire. Est-ce que maintenant était le bon moment? Ça appelle interrogation. Nécessaire parce qu'on entend beaucoup de gens dire oui, Israël fait le sale boulot, tant mieux, mais bon, non, c'est pas un sale boulot, c'était nécessaire, c'était même indispensable. Le monde ne pouvait pas aller vers un Iran atomique, vers un Iran doté de l'arme nucléaire. Ce n'est pas un régime comme les autres. La bombe atomique permet depuis 1945, dans l'équilibre de la terreur, un retour à la raison dans beaucoup de moments de tension. Ça a fonctionné entre URSS et États-Unis, ça fonctionne avec la Chine, ça fonctionne avec les pays où la raison l'emporte. Dès que vous avez un pays dominé par un fou, par exemple la Corée du Nord, non au nucléaire. Et quand vous avez un pays qui est une théocratie, dans laquelle l'apocalypse est une hypothèse, dans laquelle mourir soi-même pourvu qu'on tue son ennemi est un scénario facile, ça n'est pas possible. Donc le monde entier aurait dû se liguer pour empêcher l'accession de l'Iran à l'arme nucléaire. Il l'a fait d'ailleurs, par la voie diplomatique, on a essayé, on a eu des accords.
Trump a donné 60
etc.
jours.
Voilà. Mais Israël a pris les devants, considérant que, et là la question du maintenant se pose, on était trop près de l'obtention de résultats avec des bombes opérationnelles pour retarder une attaque. Et là, bien sûr, d'abord, on ne saura jamais, parce que personne n'a la réalité, la vérité sur ce qu'était l'état d'avancement de l'armement nucléaire iranien. On ne saura jamais. Et, bien entendu, on peut toujours se dire que dans 3 mois, dans 4 mois, ça aurait été possible. En revanche, en termes de pure tactique, frapper l'Iran dans sa voie de nucléarisation maintenant, c'est frapper un Iran qui a été affaibli. Affaibli par l'échec du Hezbollah, affaibli par l'échec du Hamas, affaibli par l'effondrement de la Syrie, etc., etc. Donc, bien entendu, un régime qui cherche à avoir une arme nucléaire, mais qui boite, eh ben, il est plus fragile et c'était sans doute un bon moment tactique pour le frapper.
Un bon moment tactique justement, et on peut s'interroger aussi sur le succès finalement militaire d'Israël. Alors c'est une opération quand même qui était préparée depuis des mois par les services de renseignement israéliens. Ce sont des gardiens de la révolution, des responsables iraniens de très haut niveau qui ont été éliminés, des infrastructures nucléaires également très importantes. Est-ce qu'on peut considérer que l'opération israélienne a réussi?
Oui, elle a réussi dans la mesure où c'est une opération extrêmement impressionnante, plus puissante et tout aussi complexe que l'affaire des beepers. On a vu qu'Israël était capable de frapper qui elle voulait ou ce qu'elle voulait, un peu quand elle voulait. Non, elle n'a pas été réussie ou pas encore été réussie tant qu'on n'a pas la preuve que les bombes sont descendues assez profondément dans le sous-sol pour détruire toutes les infrastructures. Bien sûr, des centrifugeuses ont été détruites, bien sûr, des tas de matériel industriel ont été ravagés, mais des scientifiques, il y en a des milliers, oui. Et des centrifugeuses, il y en avait des dizaines de milliers. Donc, comme on n'aura pas avant longtemps un bilan précis des dégâts causés, on ne peut pas dire que c'est réussi. Par ailleurs, il y a quand même un échec pour l'instant, c'est de neutraliser la capacité de Téhéran à riposter. L'aviation iranienne est inexistante, mais sur les missiles sol-sol qu'Israël frappe désormais, il y a quand même des missiles balistiques qui sont passés à travers le dôme de fer. Il y a beaucoup de victimes civiles, ouais. Beaucoup plus que quand le Hezbollah a essayé de riposter il y a quelques mois.
Alors effectivement, on parle de cette riposte iranienne. Quand même, 90% des missiles, Pascal Zonshine, notre correspondante à Jérusalem, le disait, ont été interceptés, ce qui est quand même énorme. 10% malheureusement passent entre les mailles du filet.
Et c'est déjà trop.
Et cette riposte, elle n'est pas vraiment surprenante, Christophe, on s'y attendait.
On s'attendait de cette riposte surprenante. Ce qui est surprenant, c'est que on aurait dû peut-être essayer de penser, avant de déclencher l'attaque, un filet supérieur. Voilà, il y a le dôme de fer, on sait que les missiles balistiques peuvent passer à travers. Qu'est-ce qu'on pouvait penser de plus? Quand il y a eu, en octobre 2024, une attaque de l'Iran, plusieurs centaines de missiles, il y a eu une coalition internationale qui n'était pas improvisée, qui était concertée pour arrêter ces missiles. Est-ce qu'Israël n'aurait pas dû prendre le temps de s'assurer le soutien, non pas moral, politique, mais technique de certaines puissances. Je pense aux Anglais, je pense aux Français, je pense aux Américains.
Justement, on va parler de la coalition internationale dans quelques instants, la position des États-Unis et de la France, mais d'abord sur la scène politique israélienne, c'est important. On peut aussi se poser la question, est-ce que Benjamin Netanyahou a d'autres objectifs que celui de s'en prendre au régime iranien, d'attaquer les installations nucléaires de l'Iran? Est-ce que vous voyez, vous, peut-être autre chose derrière tout ça?
Oui, bien sûr. Il y a toujours des objectifs politiques dans des actes géopolitiques. C'était vrai lors du déclenchement de la guerre de 14, c'est vrai aujourd'hui ici. Benjamin Netanyahou, en déclenchant cette attaque maintenant, encore une fois, attaque indispensable, mais le maintenant pose question, atteint deux autres objectifs politiques. D'abord, il fait taire une bonne partie des critiques internationales sur son action à Gaza. Ensuite, il a complètement éteint la contestation à l'intérieur de sa coalition, vous savez, l'extrême droite religieuse qui ne voulait pas du service militaire, ouais, et qui était au bord de provoquer une crise gouvernementale, une crise de majorité. Tout ça, c'est terminé. Et même la contestation au sein de la société, elle a évidemment changé de nature maintenant qu'Israël est sous la pluie des missiles iraniens. Donc, bien entendu, il y avait un intérêt politique pour Netanyahou à lancer cette attaque géopolitique. Alors, est-ce qu'il faut aller dans le cynisme le plus complet et dire qu'il ne l'a fait que pour ça? Non. Ouais.
Mais oui, ça fait 15 ans qu'on attend
mais
ça.
Mais bien sûr, ouais, il y a aussi cet arrière-plan de politique intérieure et de diplomatie. C'est-à-dire que sa relation à Trump, sa relation à Macron sont en train de changer.
Alors, on parle justement de Donald Trump. Donald Trump, on a du mal à le suivre, hein, quand même, Christophe.
Je ne vous le fais pas dire.
Avant, justement, qu'il soit élu, il était à fond du côté d'Israël, effectivement, pour frapper l'Iran. Donald Trump a appelé, eh bien, hier, Israël et l'Iran à conclure un accord, estimant que c'était possible. Et il a aussi, eh bien, donné son veto à l'élimination de l'ayatollah Ali Khamenei. Il n'est pas pour qu'Israël élimine l'ayatollah. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors d'abord, en effet, la seule chose qui va droit chez Trump, c'est les défilés militaires. Le reste, ça fait des zigzags. Essayons de suivre ces zigzags. Je crois que Donald Trump s'est désolidarisé de Netanyahou et se distingue de Netanyahou à cause de deux choses. D'abord, la rupture du cessez-le-feu et la reprise des hostilités à Gaza, telle que Netanyahou les mène depuis quelques mois, ça n'a pas plu à l'Amérique. L'Amérique a perdu le contrôle et ce n'est pas ce que voulait l'Amérique. Rappelons-nous qu'ils ont obtenu la libération d'un otage hors contact avec Israël. Deuxièmement, Donald Trump avait engagé une négociation rude, un vrai bras de fer depuis la mi-avril avec l'Iran. Il voulait aller au bout de cette séquence américano-iranienne. Netanyahou a faussé le jeu. Il a interrompu cette partie. Trump avait besoin encore de quelques semaines avant de conclure à l'absence totale de sincérité de l'Iran. Quelque part, il a tiré le tapis sous le pied de Trump, Netanyahou. Et Trump n'aime pas ça. Troisièmement, Trump est quand même dans une sorte de schizophrénie. Il a une base MAGA qui est isolationniste. L'Amérique n'a pas à s'occuper des problèmes des autres, donc replions-nous. Mmh. Nous ne sommes pas là pour être le gendarme du monde. Et puis, il a une volonté d'une partie de son électorat et surtout des dirigeants qu'il soutiennent de soutenir Israël et d'empêcher les puissances hostiles de prospérer. Donc, il est dans la schizophrénie.
Mais certains disent qu'il veut le prix Nobel de la paix aussi.
Oui, il y a sans doute cette coquetterie. Il a eu son défilé militaire. Il en rêvait depuis quelques années. Il veut le prix Nobel de la paix comme Obama. Ça n'a pas porté bonheur à Obama. Il y a aussi autre chose, je pense. Et là, il a eu raison, je pense. S'il a mis son veto à l'élimination de Khamenei, ce qui reste encore à vraiment prouver parce qu'il peut s'en vanter sans l'avoir fait, on ne déstabilise pas un régime de l'extérieur en éliminant son leader. De Gaulle et les résistants n'ont jamais fait d'attentat contre Pétain. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas créer une espèce de solidarité symbolique entre un peuple et son chef d'État, quand bien même ce chef d'État était haïssable. Donc aujourd'hui, frapper les gardiens de la Révolution, frapper les membres de l'oppression iranienne, ceux qui massacrent la société civile, ça peut vous attirer le soutien de la population. Frapper le chef de l'État symbolique, quel qu'il soit, et aussi détesté soit-il, vous pouvez fausser. Ça peut apparaître comme une ingérence excessive.
Ça peut déstabiliser aussi le régime.
Oui, mais ça peut le déstabiliser comme ça peut le renforcer. Chaque fois qu'on a dégommé un dictateur qui nous dérangeait, de Saddam Hussein à Kadhafi, ça n'a pas fonctionné. Donc je pense que de ce côté-là, autant il faut faire s'effondrer le régime en supprimant ses piliers de soutènement, et les gardiens de la Révolution, les scientifiques, l'armée, autant chef de l'État symbolique, c'est pas forcément une bonne idée, d'autant qu'il est là depuis très longtemps, qu'il est très âgé, qu'il est en bout de cycle.
Alors on parle de Donald Trump, l'Union européenne également qui a réagi, la présidente de la Commission européenne s'est entretenue hier soir avec Benjamin Netanyahou. Ursula von der Leyen n'a pas appelé à un cessez-le-feu immédiat, car pour elle comme pour Israël, l'Iran ne devrait évidemment pas avoir l'arme nucléaire, mais quand même, ce qu'on voit, c'est une volonté d'accord, de négociation avec l'Iran. Est-ce que c'est de la naïveté de la part de l'Union européenne?
Il y a une part de naïveté de la part de l'UE, et puis il y a une part de ça. La Amalek compliqué parce que comme on est 27, moins on en dit, plus on est dans la neutralité, moins on est sûr d'avoir de l'union, plus on est sûr d'éviter la division. Donc vous voyez, c'est quand même problématique. Il est évident qu'il fallait rester sur la ligne. L'Iran ne peut pas être nucléaire. Bien entendu, l'Europe doit dire, nous cherchions à l'atteindre par la voie diplomatique. L'Union européenne n'avait pas à frapper l'Iran militairement. En tout cas, pas tout de suite. Mais maintenant qu'Israël l'a fait, il n'y a plus à tergiverser. Il faut être derrière cet acte militaire d'une démocratie dirigée contre une théocratie apocalyptique.
Alors, du côté de la France qui n'a participé à aucune opération défensive d'Israël car elle n'a pas été sollicitée, c'est ce qu'a déclaré le président français. Pour ne pas mettre en péril la stabilité de toute la région, le chef de l'État appelle les parties à la plus grande retenue et à la désescalade. Lui aussi, hein, Emmanuel Macron, on a du mal à le suivre, un peu comme Donald Trump.
Oui, mais là je vais essayer de vous guider parce que ça me semble quand même un peu plus explicable. Oui, la France n'a pas été sollicitée, c'est une surprise. Pourquoi Israël n'a pas demandé, dans cette première phase, le soutien défensif de ses alliés ? Ça viendra peut-être encore s'il n'arrive pas à neutraliser les missiles balistiques. C'est peut-être pour éviter de faire de ses alliés des belligérants de fait, puisque là, c'est Israël qui a attaqué un État souverain quand même. C'est pas comme le Hezbollah ou le Hamas, c'est pas des organisations terroristes. C'est un État souverain représenté à l'ONU. Donc on peut comprendre cette précaution. On verra dans la phase suivante du conflit s'il dure. Pour Macron, je crois avoir une clé. En fait, Macron a une attitude par conflit. Il y a un conflit entre Israël et le Hamas. Macron a une attitude et elle est devenue très sévère, très critique depuis quelques semaines. Il y a un conflit entre Israël et la Syrie et le Liban, la zone Hezbollah si vous voulez. Et là, les intérêts français ne sont pas les mêmes. Au Liban, encore plus qu'en Syrie, nous avons depuis longtemps une volonté d'influence. Et donc, Macron adapte son attitude avec Israël par rapport à cela. Et de la même manière, vis-à-vis de l'Iran, nous avons nous aussi une autre attitude géopolitique. Nous avons des otages là-bas, nous avons un conflit ancien, nous sommes opposés à l'Iran dans sa quête du nucléaire, donc nous sommes beaucoup plus derrière Israël. Donc vous voyez, Emmanuel Macron est moins un caméléon qui changerait d'avis qu'un kaléidoscope. Selon le conflit que vous regardez, c'est pas la même couleur de réaction.
Il a peut-être changé encore, on sait pas.
Oui, il peut changer encore. Alors, reconnaissons-lui quand même que chaque fois qu'il a changé, c'est aussi parce que sur le terrain, il y avait eu des évolutions qui ne lui convenaient pas.
Un mot de l'actualité en France aussi quand même, c'est important. C'était ce week-end le congrès du Parti Socialiste à Nancy. Le député Jérôme Guedj a vivement dénoncé Jean-Luc Mélenchon. Il est sorti de ses gonds, on peut le dire. Il l'a qualifié de salopard antisémite en réaction à ses positions récentes ces derniers mois. Est-ce qu'il a eu raison de le faire ?
On n'a jamais raison de solliciter l'injure, d'utiliser l'injure. Surtout face à des gens qui, eux, utilisent l'injure, la menace, etc. Néanmoins, Jérôme Guedj, on peut lui donner l'absolution pour deux raisons. D'abord parce qu'il a parlé en termes sentimental. Il a dit c'est un être que j'ai profondément aimé. Il était un proche, un intime de Mélenchon. Il a vécu ça comme une rupture affective. Et on sait que quand on est dans l'affectif, les mots dépassent la pensée et on peut le comprendre. Par ailleurs, deuxième raison pour lui donner l'absolution, salopard c'est salaud et ça fait penser au salaud sartrien. Donc c'est la position philosophique du salaud qui, allez, pour dire vite, est celui qui trahit ses valeurs pour une cause d'intérêt premier. C'est exactement ce que fait Mélenchon. Donc s'il a parlé en termes sartriens, Jérôme Guedj, il a philosophiquement raison. Par ailleurs, tactiquement, il nous dit aujourd'hui, Jérôme Guedj, que c'est pas ce qu'il avait prévu de dire, il s'est laissé emporter. On peut le comprendre et ça montre à quel point l'affect joue dans cette affaire. Par ailleurs, il oblige Olivier Faure à se débusquer. Olivier Faure avait promis de détacher le PS de LFI pendant le congrès. Le congrès est à peine terminé, il trahit sa promesse.
Et on voit une radicalisation d'ailleurs du discours d'Olivier Faure qui a dénoncé, sans les nommer, ceux qui au Parti Socialiste justement appellent à rompre tout lien avec LFI.
Oui, exactement. Donc Olivier Faure, qui pendant 6 mois nous a dit LFI c'est fini, pour diviser son opposition et gagner le congrès, à peine réélu, nous dit non, LFI ça recommence. Ça recommence au niveau local, il y aura des accords locaux PS et les filles au municipal. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand il faut sauver une ville, on fait un accord avec les filles. Oui, mais alors quand il faut sauver des sièges de députés, on fera aussi un accord avec les filles. S'il y a une dissolution à partir du 7 juillet, puisque ça peut revenir, ou cet automne, il y aura donc le nouveau Front Populaire, le NNFP, le nouveau Front Populaire. Olivier Faure le fera. Alors il dit oui, mais à la présidentielle, on aura un candidat. Oui, sauf qu'ils sont incapables d'avoir un candidat. De Glucksmann à Ruffin, dit-il. Mais Glucksmann et Ruffin ne sont pas d'accord, ni l'un ni l'autre. Et quel candidat ? Évidemment, il pense à lui, Olivier Faure. Ça ne pèse pas une cacahuète par rapport à la puissance de feu de Jean-Luc Mélenchon. Donc nous sommes face à un Olivier Faure qui redevient soumis aux insoumis. On le subodorait. On savait bien que son changement depuis février était sûrement uniquement tactique et cosmétique. Ben on voit que c'est vrai, ce sentiment, et on a eu raison de penser cela, on ne pensait pas que ça irait aussi vite quand même.
Eh bien écoutez, merci beaucoup Christophe Barbier pour ce point très complet de l'information. J'en profite pour donner votre invité de demain matin, on va continuer à parler de la situation géopolitique, la situation entre l'Iran et Israël, avec votre invité demain 7h45, votre invité sera Éric Danon, ancien ambassadeur de France en Israël. Merci beaucoup Christophe et à demain.
Merci Lana.
Radio J, retrouvez le Barbier du matin sur le site radioj.fr, sur la page Facebook de Radio J et sur l'appli Radio J. Radio J.
Bonjour, c'est Lise Gutmann.
Le 10-11, Lise Gutmann.
Ravie de vous retrouver tout à l'heure au programme Judaïsme, divertissement, communauté.
Radio J.
Bonjour, c'est Ilana Ferradian. Vous connaissez ma voix depuis une dizaine d'années maintenant, mais pas forcément mon histoire. Cette histoire, j'ai décidé de vous la raconter sans filtre, à travers mon livre « 7 ans à t'attendre, journal de bord d'une PMA ». Je m'y livre sans tabou, sur mon infertilité, à travers les nombreuses suives que j'ai dû endurer pour avoir ma fille, parce que c'est un sujet qui touche énormément de femmes et de couples dans la communauté. J'espère vous donner de la force et de l'espoir. « 7 ans à t'attendre, journal de bord d'une PMA », aux éditions David Reynarque.
Les cultures juives, ça se défend. Et les Cuges aussi. Soutenir les Cuges, c'est transmettre la richesse des cultures juives, lutter contre l'ignorance et renforcer une vie juive libre, ouverte et accueillante. Les 15 et 16 juin, on compte sur vous pour la première grande campagne d'appel aux dons de les Cuges.
Et votre impact est doublé.
Oui, oui, chaque don compte double.
Double.
Alors rendez-vous les 15 et 16 juin sur allodon.fr/écuges. Facile, allodon.fr/écuges.
Radio J.
Vous écoutez Radio J.